L'histoire avec un grand I.
Revenons plusieurs siècles en arrière sur le territoire de la France actuelle. Nous sommes à la fin du 5e siècle et sur le territoire de la Gaule, plusieurs peuples se sont installés, chassant l'Empire romain. Parmi eux, les Francs, qui élisent en 481 un jeune roi, Clovis. Le célèbre Clovis, qui vécut entre donc le 5e et le 6e siècle, à une période charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et Clovis, il veut étendre son royaume, et en 486, il remporte la célèbre bataille de Soissons, dont est issu le célèbre épisode du vase de Soissons, hein, bien entendu, sur lequel nous reviendrons ensemble. Pour revenir sur Clovis et la bataille de Soissons, nous sommes aujourd'hui en direct du Micro Comedy Club. Bonjour le Micro Comedy Club. Et on accueille nos experts, la formidable équipe de l'histoire avec un grand I, Thierry Lafleur, bonjour.
Bonjour, merci. Oh, merci. Non, arrêtez.
Julien Marel, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Alexandre Rebelin, bonjour.
Bien le bonjour. Très content d'être ici.
L'histoire avec un grand I.
Alors, on va revenir sur Clovis, hein, qui, je crois, est en plus un des sujets que vous préférez dans l'histoire de France.
Évidemment.
On expliquait que la période du 5e siècle, c'est une charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être nous expliquer un petit peu ce qui différencie l'Antiquité du Moyen-Âge ?
Les cochons. Ça part des cochons. C'est le moment où on a réussi à faire de l'élevage de porcs. Et c'est une source de nourriture qui est bien plus intéressante que ce qu'on cultivait, que ce qu'on élevait au préalable. Et donc ça forge des populations plus fortes, plus résistantes aux maladies, plus protéinées, de meilleure constitution.
Jusqu'au Moyen-Âge, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Antiquité, l'être humain est avant tout herbivore. On mange très peu de viande, ou alors sans faire exprès. Et à partir du moment où on va commencer à manger du cochon, c'est là où justement on va rentrer dans le Moyen-Âge, on va rentrer dans une nouvelle ère finalement de l'humanité. Alors, que certains peuvent considérer comme sombre justement, parce que comme on va le voir peut-être justement avec l'histoire de Clovis, il ne faut pas abuser des bonnes choses.
Oh, ça me donne envie de connaître la suite. Alors justement, Clovis, il devient roi des Francs dans ce contexte un petit peu économique. Est-ce qu'on peut revenir sur la figure de Clovis, justement, qui il est comment il accède au pouvoir ?
Clovis est quelqu'un qui accède au pouvoir d'un pays qui n'existe pas encore, le royaume des Francs. Le royaume des Francs, il va unir un ensemble de petits villages ensemble qui va donner le royaume des Francs. Donc Clovis, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui veut se faire des amis, quelqu'un qui a envie de créer du lien social.
Il y arrive bien parce que en fait c'est un grand marcheur, un grand randonneur, mais ça reste un personnage très sympathique qui a le contact facile. Il se fait. Vous connaissez cette émission J'irai dormir chez vous ?
Oui.
Inspiré de Clovis.
Inspiré de Clovis à la base qui faisait ça. Il allait chez les gens, il demandait à dormir et finalement c'est comme ça qu'il va unifier tout un royaume finalement.
Et à la base c'est lui aussi qui a inventé les auberges de jeunesse par la suite.
Et les GR.
D'accord.
Il a inventé plein de choses, Clovis. Il a vraiment une vie avant d'être roi des Francs, vraiment.
Et on parle justement du royaume. Quelle était l'étendue du royaume de France à l'époque ?
Vous prenez le nord de la France, l'est également.
Le sud.
Et l'ouest.
Ouais, c'est ça.
Et un morceau de l'ouest.
Pas tout, non.
Mais voilà, ça vous fait le royaume des Francs.
Sauf la Bretagne.
On enlève le Finistère, globalement.
Toute la gauche de la France.
D'accord. Et alors, il est proche des gens, c'est comme ça qu'il accède au trône ?
Alors, non, c'est pas comme ça qu'il accède au trône. En fait, Clovis n'a aucune vocation à devenir roi des Francs.
Non.
Et ça va même être une malédiction, presque, pour lui. Mais on y reviendra tout à l'heure, justement, avec la bataille de Soissons.
Il est fils d'un éleveur de cochons. Et le moment où les cochons deviennent très importants à cette époque-là, le moment charnière de l'élevage de cochons, ça en fait un personnage extrêmement important dans le royaume, puisque sa famille est capable de fournir des cochons au peuple franc. Et donc, quand on se tourne vers quelqu'un pour diriger un pays, c'est forcément quelqu'un qui a des ressources, une capacité à le faire. Et Clovis, en sa qualité de fils d'éleveur de cochons, a des armes essentielles
pour fédérer.
Pour fédérer, en alors, plus de sa bonhomie.
Vous sous-entendez donc qu'il a été élu, finalement ? C'est comme ça que ça se passait pour les rois à l'époque ? Ou pour Clovis, en tout cas ?
En tout cas, on l'a nommé dans beaucoup de villages, on l'a nommé maire. Voilà. C'est comme ça qu'il est devenu roi. C'était en fait en devenant maire de beaucoup de villages.
D'accord.
Et en fait, c'était surtout pour éviter finalement une cohue dans le royaume des Francs. Justement, beaucoup de villages l'avaient élu maire. Ça, c'était au moment où il était encore baroudeur. Il n'avait pas encore repris l'exploitation familiale de cochons. Et en fait, au moment où justement il reprend l'exploitation de cochons, son nom se fait connaître et tout le monde y va de son « Ah bah c'est le maire de notre village ». Ce à quoi les gens répondaient « Ah non, 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 c'est le maire de notre village ». Et là, commence à y avoir une petite discorde, finalement, une sorte de zizanie dans le royaume des Francs.
Des tensions. Ouais.
Peut-être qu'on peut revenir sur la manière de devenir maire dans un village à cette époque.
Vous en prie, Alexandre.
C'est la personne qui nourrissait les autres, hein, devenait maire du village. Hein. C'était très simple, hein, vraiment, genre...
Ça vient de mère, en fait, du mot mère comme maman, donc qui avait l'habitude de nourrir au sein les
mères nourricières.
Et ensuite, une fois que les gens n'étaient plus des nourrissons, il y avait le mère ou la mère, mais qui nourrissait cette fois pas au sein, mais avec des aliments.
Et Clovis, en sa qualité de grand randonneur, ne se déplaçait jamais sans un petit troupeau de cochons. Et donc, lorsqu'il passait dans un village, bon, ben voilà, il offrait un cochon. Il y avait une petite fête, on faisait cuire un cochon sur la place publique et chacun pouvait se servir qui d'une côte, qui de...
C'est un peu de sa faute d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y a des historiens qui ont écrit justement que cette grande mode du cochon et donc l'avènement du Moyen-Âge, c'est de la faute de Clovis qui a envoyé des cochons partout. Mmh. Partout, partout, partout.
Et alors, avant Clovis, sur le trône de France, qui est roi ? Comment ça se passe ?
Personne.
Non, c'est une.
Il n'y a pas de roi des Francs.
Un ensemble
c'est
de villages.
C'est lui qui unifie vraiment le royaume à cette époque. Le royaume des Francs devient le royaume des Francs avec
Clovis. Les gens qui ne sont pas francs les appellent les Francs parce que les villages se ressemblent en tout point. Ils ont les mêmes systèmes, le même système de maire, etc. Mais les Francs eux-mêmes ne s'appellent pas les Francs. Ils se connaissent entre eux par village, mais ils ne se nomment pas eux-mêmes les Francs. Et c'est Clovis qui va les unifier en devenant leur premier roi.
Et il n'a pas eu le choix, parce qu'en fait, Thierry Lafleur a commencé à en parler, mais il y a une zizanie à cette époque, c'est-à-dire que tout le monde revendique Clovis comme étant le maire de son village, et la seule solution pour qu'on passe à côté d'une guerre civile, en fait, c'est que Clovis devienne maire de tous les villages, de tout le monde, mais de quelque chose de plus grand qu'un village.
D'accord, il devient le maire du royaume, finalement.
Le maire du royaume, c'est ça.
Voilà.
D'accord. Il est content de ce statut ? Parce que lui qui aimait barouder, qui aimait aller de village en village, il se retrouve... comment ça se passe ? Il a tout de suite beaucoup de responsabilités.
Alors c'est là où tout est le malheur de Clovis, c'est qu'effectivement on le force à rester dans une ville en particulier pour gouverner les autres. La ville bien connue de
Bourges.
De Bourges.
Au centre de la France, parce qu'elle est pile au centre.
La ville de Bourges. Et donc il doit élire domicile à Bourges pour diriger le reste de la France et son élevage de cochons, puisqu'il en est le propriétaire à cette époque. Il a alors 23 ans, couronné roi des Francs.
Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds à Bourges, mais c'est triste. Hein. 23 ans à Bourges, moi, j'aimerais pas. Hein.
Quand on est obligé d'y rester, Clovis va donc, à partir de là, on y arrivait, tomber dans une grande phase de dépression, de tristesse suprême. Il essaye de sortir le soir, de voir des amis. Il n'y arrive pas à se faire des amis. Les gens qui habitent Bourges sont des rustres. Qui ne sont là que pour l'élevage de cochons.
Pas une taverne de nuit, pas...
Rien.
Pas une activité.
Tous les gens sont là pour le travail et...
Il y a une poterie très connue qui s'appelle L'Hiver à Bourges, où on voit Clovis triste sur une chaise. Même pas un feu dans une cheminée, il y a une cheminée vide derrière lui. À cette époque-là, c'est beaucoup par poterie qu'on transmet des vases, des amphores, qu'on transmet des... Comment dire, du...
Des tableaux.
Des tableaux, enfin,
des
images, voilà.
Ouais. D'ailleurs, on a perdu une grande partie de l'histoire de France lorsque le musée de la poterie a subi un tremblement de terre. Beaucoup de poteries ont tombé, se sont cassées, et donc on a perdu des pans entiers d'histoire.
Ça, c'est terrible, ça.
C'est terrible.
Ouais.
Je sais pas si vous connaissez, mais il y a l'association
des recolleurs.
Des recolleurs, dont on n'en fait pas partie, tous les trois. Mais
non, mais j'ai un ami qui...
C'est un travail si minutieux, moi, je ne serais pas capable.
Non, c'est presque un travail d'orfèvre, de chirurgien. C'est des gens d'une association de loi 1901 qui s'est constituée autour du musée de
la poterie.
De la poterie, à Bourges, d'ailleurs. À Poitiers.
Il y a celui de Poitiers et celui de Bourges.
Mais celui de Poitiers a été particulièrement impacté par le tremblement de terre.
Bien sûr.
Et oui, c'est vrai qu'autour de celui de Poitiers, effectivement, l'association des recolleurs recolle tous les samedis et tous les dimanches, si vous voulez. Si vous habitez à Poitiers, n'hésitez pas à soit à donner, soit à l'association, soit à
donner votre temps.
Et, et si vous avez des pots cassés,
oui,
n'hésitez pas parce qu'on ne sait jamais. On sait
on
jamais.
On peut toujours recoller les pots cassés. C'est-à-dire
on
le
retrouve de la céramique dans ses greniers et puis ça peut.
Je vous remercie.
Oui, pardon.
Pour cette petite parenthèse sur les poteries. On peut revenir éventuellement sur.
Bien sûr.
Clovis seul sur sa chaise, pas un feu dans la cheminée.
Donc voilà, il est triste à Bourges. Il est triste à Bourges puisque les gens qui habitent Bourges sont là pour le travail, sont là pour la réussite financière. Mmh. Et finalement, ce ne sont pas des gens agréables. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à travailler, qui ne veulent pas du tout faire la fête, qui ne veulent pas découvrir, qui ne veulent pas s'éveiller. Contrairement à Clovis. Clovis qui, lui, a des envies de voyage, a des rêves.
Vous êtes trois, vous voulez voyager. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre.
Et oui, il n'avait pas d'autre choix que de faire la guerre pour pouvoir sortir de Bourges. Donc, on l'a poussé à la violence, Clovis. Je peux me permettre de le dire, on l'a poussé à la violence. Son seul moyen était de faire la guerre pour sortir de Bourges. Et donc, il fera la guerre au royaume de enfin, c'est pas un royaume à cette époque, c'est aussi une fédération de villages. Hein, c'est
la Prusse.
La Prusse.
Vous êtes rude quand même parce que je tiens à préciser que Clovis n'a pas voulu faire la guerre. Ça lui est pareil, tombé dessus la première fois qu'il l'a fait. C'est-à-dire qu'en effet, il est parti en Prusse. Il s'était un peu échappé. Voilà, il voulait voyager, il voulait découvrir la Prusse. En arrivant sur le territoire prusse, les gens lui demandent qui il est. Il répond roi des Francs. Vous êtes Prusse, vous vous dites mais que fait le roi des Francs chez nous? Il veut notre territoire. Et donc la guerre se déclenche d'elle-même.
Malgré lui.
Malgré lui, par sa simple présence sur le sol prusse, Clovis va déclencher cette guerre. Et voilà. Mais je pense, après c'est mon avis d'historien, mais que Clovis n'avait pas voulu déclencher vraiment une guerre. Mais il voulait simplement voyager, s'émanciper finalement des murs de Bourges.
Qui gagne cette guerre contre la Prusse?
La Prusse, parce que Clovis est tout seul à ce moment-là en Prusse.
Il s'échappe. Il s'échappe en courant.
Heureusement qu'il est bon randonneur à ce moment-là, parce que...
Non, il est dépeint seul, triste, mais avec des mollets bien musclés. Hein.
Donc la guerre est perdue, il est seul, c'est une fuite, il y a un abandon. 1-0 pour la Prusse.
1-0 pour la Prusse.
Mais voilà, c'est 1-0 pour la Prusse, ce sera noté dans tous les villages et dans tous les scores de guerre qui seront annoncés. On découvre avec stupeur dans le royaume des France qu'on est en train de perdre 1-0 contre la Prusse.
Alors ça, on peut revenir dessus aussi, c'est un peu bizarre ce système de scoring en lien avec la guerre.
Qui ont été repris par pas mal des sports modernes aujourd'hui.
Oui. Mais alors qu'à la base, le fait d'utiliser des scores pour autre chose que du sport, ça vient de la guerre. Mais on ne faisait pas la guerre de la même manière à l'époque, c'était vraiment...
C'était du 1 contre 1, et c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire quand les guerres mondiales sont arrivées, parce que le système n'avait plus aucun sens. Mais avant les guerres mondiales, c'était que des 1 contre 1.
Oui, on élisait un représentant qui devait se battre avec un autre, et ça attribuait des points à notre pays. Et au bout de 10 points, notre pays était annexé par l'autre.
Ouais, vous pouvez prendre
10 défaites,
Et là, 1-0 pour la Prusse.
Alors, Clovis va rentrer en France, enfin, au Royaume de France, avec cette défaite un peu sur les épaules. Il s'est aussi potentiellement rendu compte que ça n'allait pas être si simple que ça de voyager, puisque si, dès qu'il sort du Royaume... Il y a conflit, c'est compliqué. Alors comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il retourne à Bourges, seul sur son tabouret, ou est-ce qu'il continue quand même d'essayer d'aller de découvrir le monde ou de créer des alliances? Je ne sais pas.
Là, ça râle dans le royaume des Francs, donc il faut revenir à égalité. Il faut recoller au score, donc il faut changer de stratégie, il faut y aller. Donc Clovis va être forcé finalement de lever une armée et de se rendre en Prusse. En montrant un nouveau visage.
Alors pareil, encore une fois, du coup, on lève une armée. On ne va pas prendre des gens qui sont forts au combat. On en prend un seul qui est fort au combat et d'autres qui sont très, très forts à soutenir, à la fête.
Ce serait l'équivalent des supporters aujourd'hui.
Les supporters aujourd'hui, oui. Voilà.
Et beaucoup de couchons pour nourrir tout ce petit monde.
D'accord.
Et voilà, c'est à peu près l'armée qu'on a à l'époque.
Alors, je vous propose de faire une courte pause musicale et puis on va revenir sur ce 1-0 pour la Prusse juste après.
L'histoire avec un grand I.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'histoire avec un grand I en direct du Micro Comedy Club. pour parler de Clovis et nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Robelin.
Eh bien le bonjour encore.
Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Thierry Lafleur.
Alors, bonjour, merci.
Nous en étions à Clovis et à son départ de guerre contre la Prusse. Beaucoup d'hommes, des cochons. Que se passe-t-il quand ils arrivent sur le territoire ennemi ?
Alors la Prusse, bien sûr, les attendait. Ils avaient trouvé ça trop facile, cette ouverture du score. Ils savaient bien que les Francs allaient revenir. Donc le champ de bataille est prêt. Le champion prusse a été désigné. Ils ont aussi énormément de cochons, énormément de gens ici sur le terrain pour supporter leur champion. Et finalement, ils étaient presque un peu trop préparés puisque le Royaume des Francs va mettre en avant Guilbert. Guilbert qui était bien sûr le champion à l'époque.
Quel champion,
hein.
Qui avait un score de 17 victoires et une égalité, zéro défaite.
Zéro défaite.
À l'époque. Donc avait permis d'annexer l'Alsace-Lorraine. C'est grâce à lui qu'on avait l'Alsace-Lorraine à l'époque. Donc un champion plutôt de qualité.
Plutôt oui. De qualité, ouais. Mais vieillissant, puisqu'il avait 85 ans au moment de la bataille contre la Prusse. C'est vrai que les scores parlaient d'eux-mêmes, mais les Francs n'avaient pas été en guerre depuis longtemps. Oui. Donc Guilbert va bien sûr se faire annihiler par le champion prusse, un grand gaillard de 19 ans, haltérophile, et 2-0.
2-0, 2-0 pour la Prusse. On rentre à Bourges, enfin en tout cas pour ceux qui habitent à Bourges, et, enfin en tout cas Clovis c'est ceux qui habitent à Bourges, et c'est la dépression de Clovis. C'est son instant, la deuxième dépression de Clovis, c'est son instant, sa période de vide. Une opinion publique dit qu'on ne devrait pas retourner en guerre contre la Prusse. 2-0, on s'arrête là.
C'est déjà assez humiliant. En fait, on veut surtout éviter le 3-0.
Parce que 2-0, c'est faisable encore. 3-0, c'est impossible de remonter. Il y a très peu d'équipes, il y a très peu de pays qui le font.
Oui. J'imagine que c'est compliqué en plus, puisque, on le rappelle, Clovis, il avait été, pas élu, mais soutenu. Par le peuple, donc tout à coup il se retrouve face à une opinion publique défavorable. Est-ce que c'est là qu'entre en jeu la bataille de Soissons ?
Il commence à perdre, certaines villes qui le désélisent maire, et du coup qui un peu se revendique comme hors du royaume des Francs, donc il commence à y avoir de la zizanie. Pendant ce temps-là, on l'a dit, Clovis est en dépression. Il est dans une sombre phase où il fait de la poterie, beaucoup, en permanence. Il reste cloîtré dans ses appartements à Bourges à Potelet.
Potelet, qui est le terme pour la poterie du Moyen-Âge. Oui.
Voilà, bien sûr. On appelait ça les poteleurs. Les poteleuris.
Les poteleurs et les poteleuris, oui.
Voilà.
Ça dépend, ça dépend de la taille
des doigts.
Du pot qui est fabriqué.
Ah oui, pardon. Et donc, à ce moment-là, donc Clovis, qui est cloîtré dans ses appartements, ne montre pas signe de vie et le peuple commence à gronder. Les gens viennent manifester devant chez lui à Bourges, et justement on y vient à la bataille de Soissons, jusqu'au moment où Clovis sort avec un grand vase sous le bras et annonce qu'il est prêt.
Il est prêt. Il a eu une vision divine, dit-il. J'ai eu une vision divine.
Dans la boue, dans l'argile.
Dans la boue, dans l'argile. L'argile m'a parlé j'ai utilisé mes mains, j'y ai mis des pigments et j'ai vu que l'avenir de la France, de notre royaume, de mon royaume, allait se jouer à Soissons.
On peut rappeler où est Soissons ?
Oui, c'est vers la droite.
La droite, vers la droite de la France. Et il avait raison, il avait vu juste. Alors on ne sait pas vraiment comment il a eu cet éclair retentissant, mais il se rend à Soissons et la Prusse est là. Et oui, parce que 2-0 contre les Francs, la Prusse se dit on va cette fois nous venir en chez les Francs et gratter un point, quoi.
Mais il grattait un point, sans y être convié.
Oui.
D'habitude,
c'est une invasion.
C'est une invasion.
En fait, Soissons était une ville qui avait déjà enlevé Clovis comme maire de la ville.
D'accord.
Donc en fait, ils avaient commencé les démarches pour ne plus être dans le royaume des Francs, et les Prusses avaient commencé justement à sauter sur l'occasion, quoi. Ils étaient là, en train de négocier avec les Soissonnais et les Soissonnaises.
Il y avait déjà 7-1.
pour les Prusses, contre Soissons.
Une petite ville de Soissons, à peine 10 000 habitants. On a très peu de bons guerriers. Et puis ça fait beaucoup moins de supporters que l'armée prusse qui compte à peu près 300 000 supporters.
Oui, puissant le maire, moins de cochons.
Oui, en plus. Voilà.
Mais Soissons était encore en train de se battre vaillamment, même à 7-1. Il n'avait pas encore jeté l'éponge. Et Clovis arrive avant le drame, parce qu'à partir de 7-1, les Soissonnais-Soissonnaises avaient commencé à envoyer des enfants. Parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est un peu imprévisible des enfants, et ça peut toujours peut-être gagner une bataille.
Ça, c'était une... C'était un célèbre adage à l'époque. Mmh. Effectivement, parfois, on envoyait des enfants parce qu'on savait que c'est un enfant est plus
mieux vaut un enfant bien né qu'un guerrier mal en point.
C'est vrai, c'est ce qu'on disait. Ce célèbre adage.
Oui. Merci. C'est pas de moi.
C'est un adage de...
C'est connu.
C'est de...
Soissons.
De Soissons. C'est un adage de Soissons.
Le gars qui a donné le nom à la ville, c'est ça.
Alors, je reviens sur un détail que vous nous avez donné, Thierry, et sur lequel on n'a pas encore précisé beaucoup de choses. Vous dites que Clovis sort avec un grand vase.
Mmh. Oui.
Alors, justement, quelle est l'importance ? On va revenir sur la bataille de Soissons, bien entendu, mais quelle est l'importance de ce vase qui, visiblement, lui a permis d'avoir cette espèce de révélation ?
C'est un vase qui fait un mètre, à peu près, en taille, déjà. C'était vraiment un grand vase qu'il avait potelé lui-même.
Et sur ce vase, on y voit un enfant qui porte un cochon sur son épaule avec un Prusse au sol. Donc on y voit la victoire d'un enfant sur un Prusse.
C'est une sorte de prophétie.
Avec un cochon. Et donc il dit que ça lui vient de Dieu. C'est ça qui donnera après cette espèce de lien entre la royauté et la déité et Dieu.
Il sera baptisé juste après la bataille de Soissons.
La bataille de Clovis se fait après la bataille de Soissons. On y voit sur les tableaux, premiers tableaux qui font partie des premiers tableaux d'ailleurs historiques. On arrête de faire de la poterie, on commence à peindre sur des toiles. On y voit la poterie derrière qui lui a valu cette prophétie. Ouais.
Alors, Clovis arrive, s'entretient avec le maire du village. Il lui dit, écoutez, si vous ne voulez pas perdre 10-1, écoutez-moi, réinstaurez-moi maire, et je ferai en sorte que vous remportiez la bataille contre les Prusses et que nous remportions la bataille contre les Prusses. Et il montre
sa poterie.
Et les Soissonnais-Soissonnaises sont... sceptique, mais perdant 7-1, ils n'ont d'autre choix que de faire confiance à Clovis.
Clovis qui est venu avec toute une flanquée de francs.
Et donc
pas tout seul. Hein. Donc il y a quand même une... on peut dire supporter. Oui.
Sur le système de décompte des points, donc là par exemple une ville qui perd 7-1 contre les Prusses, si elle se rattache au royaume des francs, elle repasse à 2-0.
Dans le royaume des francs, si une ville est annexée par un autre royaume pendant une guerre contre un autre royaume, l'autre royaume bénéficie du malus de la ville qui était en cours d'annexation.
Mmh.
Et donc ça fait...
c'est moyenné.
Ça fait, oui, plus malus de 2 points. Oui. Plus malus de 2 points. Mmh. Donc ils arrivent pile poil au bon moment, parce qu'à 8-1, c'était
Clovis a des choses à prouver, quand même.
Et puis, il mise gros, parce qu'à 9-1, en incluant les Soissonnais, il est presque prêt à perdre le royaume de France.
Mmh.
Donc il est, au niveau de l'opinion publique, on ne lui fait pas confiance. C'est un coup de poker qui peut coûter gros.
Puis le soleil va se coucher dans à peu près 5 heures, donc il faut prendre ça en compte. Il y a 8 points à remonter. Si le soleil se couche, c'est la fin et c'est la défaite. Donc il faut qu'ils réussissent à remporter plusieurs batailles avant que le soleil se couche.
On peut peut-être revenir sur cette histoire de soleil.
Alors, je me permets...
Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Non,
le suspense est à son comble. On va arriver dans pas très longtemps à la fin de cette émission, dans quelques minutes. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à...
Oui, bien sûr.
On se dépêche.
Bah, oui, une bataille, c'était sur une journée.
Une bataille sur une journée. Les points étaient remis à zéro tous les solstices.
Mm.
Et là, c'était le
jour même du solstice.
C'était le jour du solstice. Mm. Donc vous aviez 6 mois pour annexer un pays, sinon il y avait à nouveau 0-0. Donc 9-1, il faut trouver l'enfant prophétique et Clovis fait rassembler tous les enfants sur la place publique de Soissons.
Mm. Il fait rassembler tous les enfants sur la place publique et il lâche un cochon, le cochon de Clovis. Il sera appelé ainsi par l'histoire avec un grand H. Il lâche le cochon et le cochon va de lui-même vers un enfant Et un lien indéfectible commence à se créer entre cet enfant et ce cochon.
Alors, petite indication quand même, ce cochon, c'était pas n'importe quel cochon, c'est le seul cochon que Clovis n'aura jamais sacrifié lors de ses voyages et randonnées. À chaque fois, il donnait des cochons, il se nourrissait de cochons. Celui-ci, c'était un vieux cochon, il s'était pris d'amitié pour lui, et il ne l'avait jamais blessé, jamais touché. Et là, ce jour-là, voilà, il a désigné ce cochon pour aller choisir l'enfant.
L'enfant est choisi, la petite Marguerite, 8 ans et demi, est désignée comme championne des Francs et s'apprête à se battre contre le Prusse.
Donc toujours ce grand gaillard qui cette fois a 24 ans, qui est toujours haltérophile et qui est vraiment en train de décimer le village de Soissons pour l'instant.
On est en 486 et Marguerite s'élance contre ce grand gaillard haltérophile.
Elle lui crève les yeux.
Elle lui crève les yeux, tout à fait.
Le rendant aveugle.
Par quel moyen ?
Elle lance de la boue et par chance, il y avait des cailloux à l'intérieur.
Très pointu.
Un coup de chance. C'est imprévisible, les enfants, comme on dit, le célèbre adage. Comme dit le célèbre adage soissonnais.
Oui, oui. Mieux vaut un enfant bien né qu'un guerrier mal en point.
Tout à fait.
Et le guerrier, à ce moment-là, est très mal en point. Le Prusse est aveugle. Et alors là, Marguerite, il va. Il va franco.
Et le cochon lui chique les mollets en plus.
Mais le cochon lui chique les mollets en même temps. Et Marguerite a des fleurs dans les cheveux, une petite couronne de fleurs dans les cheveux. Le Prusse est allergique au pollen. Il décède peu après.
C'est vraiment un concours de circonstances qui fait que Marguerite remporte cette bataille.
Elle enchaînera 8 victoires supplémentaires.
Avec autant de chance à chaque fois.
Avec autant de chance à chaque fois.
Les Prusses vont envoyer tous leurs haltérophiles. Et rien à faire, Marguerite.
Ils changent pas de méthode. Ils envoient que des haltérophiles. Ils ont une stratégie. Ils s'y tiennent jusqu'au bout. Ils perdront. Ouais.
À quoi bon être haltérophile si on ne peut porter la victoire Qui dira plus tard Clovis.
Qui dira plus tard Clovis, ouais. Tout à fait.
C'est pas de moi, c'est Clovis.
C'est Clovis.
Et donc voilà, le royaume Clovis des Francs remontera au score.
Annexera la
9-10,
Prusse.
9-10, et la Prusse fera partie du royaume des Francs.
Effectivement, c'est ce qui pose dans la légende de Clovis, roi des Francs, roi de Prusse pendant un moment, avant de la reperdre, mais ça, pour peut-être un autre épisode, et qui l'érigera en tant que roi, donc il sera baptisé après à Reims, roi des Francs, choisi par Dieu.
Grâce au vase de Soissons.
Grâce au vase de Soissons.
On reviendra peut-être dans un autre épisode sur la suite de la vie de Clovis, puisque c'est foisonnant, il y a plein de choses à raconter. Peut-être juste en trois mots, si vous deviez donner trois mots pour décrire le reste de sa vie, de son règne, pour qu'on ait une petite idée.
Bah, écoutez, j'en ai parlé au début de l'émission, mais cochon, désastre, humiliation. Pour tout ce qui reste du Moyen-Âge, en fait.
Moi, je dirais guide Michelin et randonnée. Mm.
Moi, je dirais chance, malchance et étrange.
Eh bien, merci à vous. Ce seront les mots de la fin de cette émission consacrée à Clovis et au vase de Soissons. Encore merci. C'était l'histoire avec un grand I. Pour une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, l'histoire avec un grand I. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau fait historique. À bientôt.
L'histoire avec un grand I.